RCF.
Clarinettiste professionnelle, Rose Bacco a été touchée il y a 20 ans par la musique klezmer, une musique qui puise son origine dans le judaïsme. Depuis lors, elle interprète les psaumes, mais aussi des versets de l'Évangile. Rose Bacco nous raconte comment le judaïsme nourrit profondément sa foi chrétienne, lui faisant découvrir le Dieu de tendresse. Rose Bacco, bonjour.
Bonjour.
Vous vous êtes lancée il y a une vingtaine d'années dans l'interprétation de psaumes, en reprenant notamment le principe de la musique klezmer. Quel a été votre premier contact justement avec cette musique klezmer ?
C'est une cassette qu'on m'a offerte, qu'un jeune homme polonais m'a offert, qui n'était pas juif, que j'ai écouté parce que d'un côté il y avait la clarinette dans ce répertoire klezmer, de l'autre côté il y avait des chants en yiddish. Et cette clarinette klezmer, qui est en fait le même instrument que l'instrument classique, hein, mais qui est utilisé d'une façon différente. L'esthétique du son est un peu différente. L'ornementation, de telle sorte que, pour moi, je l'ai reçue comme une parole, comme une autre façon de faire parler mon instrument. Et je l'ai écouté longtemps, longtemps, car je n'étais pas préparée à jouer cette musique-là. Et un jour, je me suis lancée.
Elle vient d'où cette musique ? Quelle est son origine ?
D'origine, alors le terme de klezmer au départ pour les puristes, c'est plutôt l'Europe de l'Est. Kles, c'est l'instrument, zemer, la voix en hébreu. Mais en fait ensuite elle est sortie de cette communauté juive. D'abord, tous les juifs n'ont pas vécu en Europe centrale, en Europe de l'Est. Et partout où la diaspora juive s'est installée, que ce soit justement au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, en Espagne, aux États-Unis, tous les juifs de ces communautés-là ont joué leur musique teintée du lieu dans lequel ils vivaient. Donc elle a pris des couleurs extrêmement différentes. Et elle reste de la musique juive. Et puis alors aujourd'hui, c'est ce que je disais tout à l'heure, aujourd'hui elle est sortie. En plus, le répertoire klezmer touche des gens qui ne sont pas juifs.
Vous avez dit que vous l'aviez reçue comme une parole. Qu'est-ce qui vous a touché justement dans cette musique ?
En fait, la musique, on l'entend à des lieux différents de notre personne. On l'entend, certaines musiques parlent à l'épiderme, d'autres parlent à la tête, d'autres parlent à des différents lieux du corps. Et moi, elle m'a parlé aux entrailles. Elle m'a émue d'une façon extrêmement impressionnante, comme si c'était la mienne, enfin comme si elle parlait mon langage. Et c'est pour ça que je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce qu'elle me touche à ce point-là ? Et est-ce qu'elle pourrait toucher d'autres gens non préparés, enfin hors de la communauté juive ? Donc c'était très expérimental au départ, je ne savais pas.
Donc vous vous êtes procuré une clarinette pour cette destination-là ?
Non, j'ai gardé mes instruments. Je me suis procuré, oui, une clarinette basse plus tard. Mais c'était pas mal plus tard quand je me suis dit ce serait intéressant de faire un tricotage, de tresser cette parole musicale avec une parole verbale. J'ai commencé d'abord par des contes avec ma petite clarinette. Et puis, je me suis intéressée aux psaumes. Et les psaumes, je les reçois comme des textes qui sont très ajustés à l'âme humaine, justement, qui ne trichent pas. Oui. Et donc, il me fallait une voix humaine à la fois masculine et féminine. La voix du violoncelle aussi aurait pu faire. Mais là, j'ai pris la clarinette basse parce que c'était plus facile, même si c'est un autre instrument et qu'il a fallu que j'apprenne beaucoup de choses, que j'ai fait pas mal de canards à réapprendre cet instrument-là.
Justement, la clarinette, c'est un instrument à vent. Vous avez également besoin de votre bouche pour compter, pour lire les psaumes. Comment vous associez les deux, la voix et la clarinette ?
Je les alterne. sauf à des très rares moments dans les CD où il y a un montage. Sinon, voilà, je parle, je joue, je parle, je joue. Mais par contre, c'est pas toujours le même rythme. Ça dépend de l'intensité du texte, de sa densité, de ce qui se passe dans le psaume ou dans le conte. Et voilà, le rythme est un peu différent.
C'est une continuité entre la parole avec des mots et puis la parole avec des notes.
Oui, c'est ça. C'est une continuité. C'est une mise en vibration intérieure. La musique vient colorer le texte verbal. Et le texte verbal modifie beaucoup la façon dont on écoute la musique qui suit. Il y a vraiment une interaction, une alchimie qui se passe.
Et d'ailleurs, sur scène, on peut dire, quand vous jouez devant un public, il n'y a aucune partition devant vous. Tout est appris par cœur.
Oui, car j'aimerais que ce soit reçu comme la même parole. L'hébreu, le français, la clarinette, chacune de ces paroles venant solliciter, mettre en vibration, faire résonner en nous un lieu différent de notre corps. L'objectif étant d'embarquer la personne humaine tout entière dans son histoire, dans sa sensibilité, et que quelqu'un qui écoute ce que je donne puisse se dire, eh ben, ça deviendra ma parole, ça peut devenir ma parole, ça peut devenir vivant pour moi aujourd'hui. C'est ça l'objectif, c'est la vie.
Alors justement, dans ces psaumes, vous les dites en français et puis aussi en hébreu, vous avez appris à parler l'hébreu. Comment vous procédez pour cette création musicale? Comment vous avez fait pour mettre ces psaumes en musique?
Quelquefois, c'est la mélodie qui appelle le psaume. Quelquefois, c'est le psaume qui appelle la mélodie. C'est rarement prévu. Ce sont des tâtonnements, en fait. Des tâtonnements. Là, je sens que ça pourrait marcher. Puis tout d'un coup, je me dis non, ça n'ira pas. Je cherche, en fait. C'est très difficile d'expliquer qui est premier.
Vous avez interprété 43 psaumes. Vous les avez appris par cœur au départ, avant justement de vous lancer dans cette création. Comment ça s'est passé?
Je travaille de front, les deux. La musique et le texte. Oui, j'essaye de pas trop les séparer, en fait. Puisqu'ils sont amenés à résonner ensemble.
Et alors, il y a bien sûr la question de la traduction, puisque... Eh bien, pour un psaume, il peut y avoir une multitude de traductions possibles. Est-ce que c'est un aspect que vous avez travaillé aussi?
Alors, je ne me permettrai pas de parler de traduction en ce qui me concerne, car je ne domine pas suffisamment l'hébreu, et qu'il y a des gens qui ont passé des vies entières à traduire ces psaumes. Mais je suis fascinée par la diversité des traductions, oui. Et puis par la richesse de ce que peut dire l'hébreu, sans le trahir. On a une ouverture de possible qui est fascinante. Et donc, là, j'aime bien me promener là-dedans, jouer avec ça et rechercher ce qui, tout en restant au plus près de ce que je comprends du texte hébreu, d'un texte qui soit à la fois simple pour qu'on puisse l'entendre, que ce ne soit pas trop tordu, qu'un texte qui soit quand même poétique, car on parle d'une poésie. Et voilà, d'un texte qui soit touchant. Donc tout ça, ce sont des axes qui selon après derrière lesquels je travaille pour tomber sur mon texte français. Quelquefois, il change d'ailleurs. D'une année sur l'autre, je passe d'un temps à l'autre en fonction de ce que je vis et de ce qui me traverse. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il réside au plus haut il abaisse ses regards sur les cieux et la terre.
Rose Bacco, nous venons donc d'entendre votre interprétation du psaume 113 accompagné par votre clarinette basse. On dit que les psaumes nous offrent les mots pour parler à Dieu. On dit même que c'est Dieu lui-même qui nous donne les mots pour nous adresser à lui, pour crier vers lui. Est-ce que vous-même, ces psaumes vous ont donné les mots pour parler à Dieu ?
Oui, ils m'ont permis de m'émerveiller devant la liberté du psalmiste, cette intimité fascinante qu'il a avec son Créateur, et puis en même temps, cette conscience profonde que Dieu lui échappe, que Dieu est le tout autre. Il y a, c'est ce que je ressens du judaïsme, cette capacité de tenir les deux bouts de la chaîne, ce Dieu plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes, et ce Dieu tout autre devant lequel c'est stupéfiant de voir le psalmiste se planter et lui dire « ça va durer jusqu'à quand cette affaire-là » Il y a quelque chose de fascinant.
C'est un dialogue.
C'est un dialogue, c'est une confiance. C'est une confiance qui m'émerveille. La confiance que Dieu va de toute façon comprendre. Et c'est difficile à expliquer, mais le psalmiste est certainement mon maître en termes de foi. Il me permet d'avancer petit à petit vers une expression sans phare, sans, en vérité, passe à mon Dieu.
Avant justement de découvrir cette musique klezmer, vous aviez une attirance, une connaissance des psaumes ?
Pas tellement. Mais en tant que musicienne, j'ai souvent rêvé d'utiliser mon instrument pour la prière. Et souvent je me disais, les messes de Mozart, les cantates de Bach, tous ces chefs-d'œuvre, toutes ces merveilles, et c'est important qu'elles soient jouées par des musiciens qui vivent ce qu'ils disent. Ça ne trompe pas, en fait. Un musicien, un chanteur, un musicien qui est dans la prière quand il joue, ça ne trompe pas. Et c'est tellement puissant.
Donc, quand vous jouez, quand vous interprétez ces psaumes, vous êtes en prière ?
Ah oui. Oui. Que je sois chez moi ou que je sois face à une assemblée, quelle qu'elle soit. Oui. Je suis en prière.
Alors que, pour autant, selon les thèmes des soirées, justement, de ces représentations, peut-être que ce n'est pas accordé à votre émotion, sentiment du moment.
C'est vrai.
Alors comment vous faites ?
Eh bien, en fait, souvent, les psaumes passent... Le psalmiste n'est pas monolithique. Hein. Il y a pas mal de psaumes où il part dans une immense joie, reconnaissance, et puis il dit ça, rien ne va plus, et on le voit dans le fond du trou, et puis il rebondit. Et en fait, c'est l'histoire d'une vie. Chaque psaume est l'histoire d'une vie. Et moi, personnellement, il est rare que je vive une joie, si intense soit-elle, qui ne soit pas avec en toile de fond quelque chose qui est difficile à vivre. Et inversement, quand je vis quelque chose de difficile, c'est pas tout noir. Il y a aussi des failles de lumière qui arrivent. Et donc, j'ai tout en moi presque tout le temps. Et il faut le réveiller, il faut l'ajuster. Mais je me promène avec tout le paquet en permanence.
Il y a aussi peut-être une manière, on prie pour les autres, peut-être, justement, quand on est... Eh bien, quand ces mots relèvent de la joie ou de la tristesse, est-ce qu'il y a une manière de dire ces mots pour d'autres qui ne les disent pas ?
Peut-être. C'est-à-dire que c'est un partage. Quand la joie, par définition, la joie est quelque chose qui déborde. Donc, je ne me pose pas la question de savoir si je parle pour quelqu'un d'autre. Je parle du fond de mon être et la joie... c'est dans sa nature d'être contagieuse. Malheureusement, la tristesse aussi. Et c'est une des conséquences. En fait, le fait de toucher quelqu'un, je pense, à côté de moi, est une conséquence de l'authenticité de ce que je vais vivre, plus que de mon intention de l'embarquer.
Qu'est-ce que ces psaumes vous disent de Dieu? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait découvrir sur Dieu?
C'est difficile de... Il y a d'abord cette grande intimité du psalmiste, de ce Dieu tout proche. Le psaume 139, par exemple, « Seigneur, tu me connais jusqu'au plus profond de moi-même, tu sais tout de moi, quand je m'assois, quand je me lève, etc. » C'est fascinant. C'est fascinant et c'est très difficile de rester dans cette conscience de ce Dieu qui est le plus proche de tout ce qu'on peut imaginer de ce que je vis. C'est aussi le tout autre, ça, ce Dieu sur lequel je ne peux pas mettre la main et sur lequel personne ne peut mettre la main. Et puis, il y a quelque chose qui me touche énormément, c'est que ce sont... Les psaumes, mais surtout quand je les dis en hébreu, ce sont les paroles que Jésus a dites. C'est sa prière. Ça est certainement, c'est impossible à un juif pratiquant, un juif, voilà, de ne pas dire les psaumes et de ne pas dire les psaumes en hébreu. C'est la prière de Marie, c'est ce qu'elle lui a appris. Et quand je les dis en hébreu, ce sont ses paroles. Il a dit ces paroles-là. Certainement, puisque c'est la langue liturgique et on n'y touche pas, c'est sacré. Et pour moi, c'est extrêmement puissant. C'est lui qui prend la parole, c'est lui qui prend le relais, c'est lui qui prie. Alors dire que je sais quelque chose de plus sur Dieu, je ne sais pas, non. Mais recevoir ces psaumes du judaïsme et de... Jésus fait homme, Dieu fait homme pour moi qui suis chrétienne, c'est très fort, c'est très puissant.
Quelle était justement votre connaissance, vos relations avec la religion juive avant de vous lancer dans cette création musicale?
Je ne savais pas grand-chose. Je ne savais pas grand-chose, je me suis mise à lire, je me demandais mais qui sont les gens qui ont composé cette musique? Parce que je suis partie de la musique, hein. Donc, qui sont les gens qui ont composé cette musique? Pourquoi est-ce qu'elle me touche à ce point-là? Et je me suis mise à lire la littérature, l'histoire, et je ne suis pas au bout du compte. Hein. J'ai encore beaucoup à apprendre. Et puis, la façon dont aujourd'hui la communauté juive vit sa foi, c'est aussi très intéressant, c'est très vivant, et c'est très enseignant pour moi. Je reçois énormément. Énormément. Il y a une intuition de Dieu dans le judaïsme qui est extrêmement puissante.
Est-ce que cela nourrit quelque chose? Est-ce que cette découverte nourrit quelque chose dans votre foi chrétienne? Pour votre foi chrétienne?
Oui, cela nourrit... Je suis à la case départ, mais c'est tout de même une image d'un Dieu qui n'est que tendresse, qui n'est que... Hanoun verachum, il est tendresse, il est entraille maternelle. Et puis, il est en même temps justice. La foi juive, le judaïsme tient ces deux extrêmes. C'est l'équilibre, en fait, qui compte. Et c'est l'équilibre de ce Dieu tout amour et de ce Dieu juste. Din, la justice de Dieu. C'est tout un itinéraire. Hein. C'est ce que je comprends aujourd'hui.
Alors, vous êtes invité à jouer quelquefois devant justement cette communauté juive. Quelle est leur réception de ce que vous faites?
Eh bien, ils sont assez touchés. Tous ne m'accueillent pas. Car je suis une femme, parce que je sous-souffle dans un instrument, parce que je suis chrétienne, et que je leur apporte rien finalement. Je leur joue leur musique avec leur texte. Il n'y a pas d'autre valeur ajoutée qu'une tentative de main tendue d'une chrétienne qui veut recevoir sa foi de cet héritage juif, dans cette continuité-là, dans cette cohérence-là, et qui sait que c'est incontournable. Que je ne pourrais pas être vraiment chrétienne si je ne comprends pas bien ce que je reçois du judaïsme.
Rose Bacot, vous êtes amenée à jouer, bien sûr, devant des personnes juives, mais aussi devant des catholiques, des protestants. Cette dimension, vous l'avez, je peux dire, dans vos gènes, puisque votre père était catholique et votre mère protestante. Justement, le fait de jouer devant ces publics de confessions et de religions différentes, est-ce que aussi ça vous apporte dans votre chemin spirituel?
Bien sûr, j'aime cette diversité. J'aime aussi aller dans des bibliothèques, dans des lieux où on ne parle pas forcément de Dieu. Alors là, avec les contes, j'aime parler à des gens de tous les âges. J'aime cette diversité. Voilà, c'est très intéressant. Je pense que j'ai de la chance de pouvoir, à cause de ce texte des psaumes en particulier, qui est fondateur pour toutes les communautés chrétiennes et bien sûr pour la communauté juive. On partage ça. Et pour moi, c'est important de garder cette diversité des publics. Enfin, c'est un cadeau. C'est vraiment un cadeau.
Alors, j'aimerais que l'on revienne sur une phrase que vous avez pu me dire lors de nos échanges. Vous m'avez dit que vous aviez une fascination pour l'Eucharistie. Je voudrais que vous m'en disiez un peu plus. Pourquoi ?
Je pense qu'il fallait Dieu pour inventer l'Eucharistie. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. S'il y avait une chose à retenir pour moi du catholicisme, c'est vraiment ça. Ce Dieu qui se fait pain, qui se fait... C'est cette capacité qu'a Dieu de se réduire au plus petit objet, mais nourriture en même temps et toute simplicité. On ne se lasse pas du pain. Hein. Moi, je fais mon pain depuis 40 ans. On ne s'en lasse pas. Et c'est cette nourriture de base. Et puis, c'est la présence aussi. C'est la présence dans une église catholique, la présence de Dieu dans le Saint-Sacrement, comme d'une personne que je peux rencontrer, en présence de qui je peux me mettre, même très imparfaitement. Ça aussi, c'est complètement fascinant. C'est difficile de parler de la présence réelle. Mais c'est un des grands cadeaux du catholicisme pour moi.
Et un cadeau du protestantisme, alors ?
Ah, la relation au texte. Cette capacité de venir interroger le texte, cette rigueur, ce questionnement sur chaque mot, cette connaissance des textes qu'ont les protestants. Ils sont là, ils sont mes maîtres, vraiment. Et puis cette capacité qu'ils ont d'être dans l'action, de mettre leur foi en œuvre.
Alors tout à l'heure, vous parliez du fait que vous priez pendant ces représentations, c'est vraiment une prière. Est-ce que justement, avant d'entrer en scène, quelle préparation vous avez pour justement rentrer en prière ?
Rien de particulier. Le matin, je travaille et ensuite, je donne l'affaire au Seigneur. C'est son affaire, un dernier lieu. Voilà, je rentre en moi-même quand je... De toute façon, ce sont des textes qui me prennent aux entrailles d'emblée. Dès l'instant où je prends ma clarinette, où je dis ce texte, je suis aspirée par le texte et par ce qu'exprime ma clarinette, infiniment souvent plus, de façon très très, beaucoup plus affinée que même le texte ne peut le dire. Et ça me prend corps et âme, sans que je pense à quoi que ce soit, en fait.
Alors, vous travaillez les psaumes, et puis, dernièrement, vous travaillez aussi des versets de l'Évangile, ou bien des paroles de saints. Pourquoi cette diversité, pourquoi cette ouverture ?
Ce sont des textes que je trouve beaux. Quand je mets en scène ou que je mets en musique le danseur de Madeleine Delbrel, je trouve que cette femme a un humour qui me fait penser à Dieu. Dieu a certainement beaucoup d'humour, j'en suis sûre. Quand je mets Il est midi en musique de Paul Claudel, il y a cette grande tendresse vis-à-vis de Marie qui est merveilleuse. Ce sont des textes qui me parlent, en fait. L'évangile, bien sûr, de la Samaritaine me touche à plus d'un titre et il est fascinant. Les derniers chapitres de Jean sont d'une beauté, d'une tendresse infinie. Voilà, les béatitudes, je comprends rien aux béatitudes. Je dis c'est que du paradoxe, que des choses qui se contredisent, mais en même temps, je me dis c'est très fascinant.
Rose Bacot, avant que l'on termine cet entretien, j'aimerais que vous nous citiez quelques versets d'un psaume qui vous parle actuellement.
Que ayalta rogala fikemaim, ken nafshi ta rogelecha Elohim, tzamea nafshi l'Elohim, le'el chai, matai avo ve'erai pene Elohim, comme le cerf aspire au cours d'eau. Ainsi, mon être aspire à toi, ô Dieu. Mon être a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand viendrai-je? Quand serai-je vu devant Dieu?
Merci beaucoup, Rose Bacot, pour ces très beaux versets. Et un grand merci surtout pour cet entretien. J'invite les auditeurs qui veulent écouter davantage ce que vous proposez à se rendre sur le site laclarinetteconte.com. Merci beaucoup à vous.
Merci Bénédicte.